les animaux sont frères. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux. L'heure a sonné de la révolte.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Les animaux font-ils partie de notre histoire? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Éric Baratet. Aujourd'hui, quatrième épisode, les animaux dans la guerre. L'animal qui a été le plus utilisé dans les guerres est bien sûr le cheval. Apprécié pour sa force, sa rapidité et sa bonne interaction avec le cavalier, le cheval est présent sur les champs de bataille depuis plus de 3000 ans. Qu'il serve à tirer les chars ou lorsqu'il est monté dans les charges de cavalerie, les raids, l'approvisionnement ou le transport. Au Moyen-Âge, la figure la plus noble du guerrier est celle du chevalier qui, en armure, combat sur son destrier, lui-même étant le cheval le plus coûteux et le plus prestigieux du Moyen-Âge. Le cheval est essentiel sur les champs de bataille jusqu'à l'arrivée de la poudre à canon à la fin du XIVe siècle qui met fin à la suprématie militaire de la chevalerie. Peu importe, le cheval demeure encore longtemps le symbole prestigieux du guerrier, que ce soit dans les joutes des tournois, en souvenir nostalgique de la chevalerie d'antan, ou dans l'image que les grands stratèges souhaitent donner d'eux-mêmes à la postérité. Pour preuve, les statues équestres de Louis XIV ou le tableau grandiloquent de David représentant Bonaparte franchissant à cheval le Grand Saint-Bernard. Au XVIe siècle, c'est à cheval que les Espagnols conquièrent le continent américain, où cela fait plus de 10 000 ans que le cheval a disparu. En Amérique du Nord, les Amérindiens prendront leur revanche, pour peu de temps, en s'emparant de l'arme de leurs ennemis. Au XIXe siècle, les cavaliers Comanches et Cheyennes se révèlent de redoutables adversaires pour l'armée américaine. Mais bientôt, avec la Première Guerre mondiale, l'utilisation des animaux, comme celle des hommes, va prendre une dimension cataclysmique.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Regarde un peu ce cheval. Regarde les muscles qu'il a. Et ses jambes immenses. Les chevaux sont faits pour courir et pour fuir le danger.
C'est leur seul moyen de survivre.
Et nous, on leur demande l'inverse. Courir vers la mort.
C'est un cheval de guerre.
De 1914 à 1918, les animaux ont payé un lourd tribut à la guerre. On estime que 8 millions de chevaux, 3 millions de mulets et d'ânes, 100 000 chiens, 200 000 pigeons ont été enrôlés sur le front de l'Ouest. Le 2 août 1914, l'ordre de mobilisation générale, placardé dans toute la France, concerne les hommes, mais aussi les chevaux et les mulets. Une réquisition déjà souvent traumatisante pour des animaux peu habitués à quitter leur maître. Dans les wagons des trains qui les conduisent au front, les chevaux, apeurés, hennissent ou se frappent aux parois. Arrivés sur le front, les chevaux partagent la vie stressante et dangereuse des soldats. La faim, la soif, l'épuisement dû à de longues journées de marche et de lourdes charges, les gaz, l'enlisement dans la boue, les blessures mal soignées, la brutalité des ordres, la terreur provoquée par le bruit des balles et des obus ou les gémissements de leurs congénères qui agonisent. Un spectacle que l'écrivain ancien combattant Maurice Genevoix, qui aimait les chevaux, sera un des rares à raconter avec compassion. Il évoque par exemple sa rencontre intime avec un vieux cheval de ferme, blessé, qui de son regard triste bouleverse le soldat. « Ses grands yeux troubles me regardent, il flotte dans leur eau profonde, un infini de stupeur triste. » Éric Baratet et Maurice Genevoix, qui parlent beaucoup des animaux dans ses récits de la guerre de 14-18 et singulièrement des chevaux, montrent bien, il me semble, la proximité des humains et des animaux dans la guerre, mais de manière générale dans leur destin.
Il y a énormément d'écrivains ou de soldats du rang qui en parlent parce qu'ils sont omniprésents et puis parce qu'il y a, va s'installer, alors notamment pendant la guerre des tranchées, il y a vraiment l'idée chez beaucoup de soldats qu'il y a une alliance de compagnons de misère là aussi, hein, comme pour les mines.
Dans un article que vous avez écrit en 2025, Éric Baratet, vous rapportez des témoignages très étonnants qui m'ont beaucoup surprise sur le stress vécu par les animaux qui tentent d'échapper au combat en inventant des stratagèmes pour ne pas y aller. Un cheval qui comprend par exemple que s'il boite, on le laissera tranquille, ou des chiens qui, dans un contexte de bombardement, refusent de partir et décident de faire semblant de dormir. C'est étonnant.
Oui, oui, on a plein de réactions comme ça parce qu'évidemment, les animaux sentent très bien le danger, ils le sentent même encore mieux que les humains. Hein. Par exemple, les chevaux repéraient très bien l'arrivée des nuages de gaz, que les humains se demandaient toujours est-ce que c'est vraiment du gaz ou est-ce que c'est pas du brouillard. Les chevaux comprenaient très bien, hein, et donc à ce moment-là, se mettaient à vouloir partir en courant.
Hein. Donc cette... Oui, ce qui est étonnant, c'est d'inventer des stratagèmes pour ne pas y aller.
Tout à fait. Vous avez parlé de ce cheval. Effectivement, chaque fois que on allait chercher un cheval pour une corvée, eh bien, ce cheval-là faisait semblant de boiter pour qu'on ne le prenne pas, jusqu'au moment où les gens, les humains, se sont aperçus de la ruse. Hein, ou alors des chevaux qui se mettent derrière d'autres, parce que l'humain va rentrer, va prendre le premier venu. Donc, si on se cache, hop, y a peut-être plus de chances.
Les chiens aussi ont joué un rôle important. Les chats, ils sont dans les tranchées ?
Alors, les chiens ont un rôle utilitaire, hein, parce qu'on va les enrôler au départ comme chiens sanitaires pour retrouver des blessés. Le champ de bataille de la Marne fait 50 km de long. Donc, aller retrouver des blessés sur 50 km, ça n'est pas évident. Le temps de les trouver, ils ont le temps de mourir. Donc, l'idée, c'était d'envoyer des chiens pour qu'ils détectent les blessés et qu'ils alertent les infirmiers. Et puis, avec la guerre des tranchées, on a développé, par exemple, les chiens de garde, les chiens sentinelles dans les tranchées, pour qu'ils officient la nuit, qu'ils détectent l'arrivée cachée hein, de petites troupes qui venaient faire des coups de main pour avoir des prisonniers et pouvoir les interroger. Et ces coups de main étaient extrêmement redoutés des soldats hein, dans toutes les armées, parce que ceux qui arrivaient voulaient un prisonnier, ils n'en voulaient pas 36. Donc s'ils tombaient sur un petit groupe de 3-4, on en prenait un et les autres étaient nettoyés à l'arme blanche. Pour essayer de limiter ça, bien, on a adopté dans toutes les armées des chiens sentinelles. Et puis, troisième rôle des chiens, ce sont les chiens messagers qui servaient à porter des messages entre les premières lignes et l'arrière. Donc, on prenait un chien attaché, on le gardait en première ligne. Et quand on voulait s'en servir, on lui mettait un message sur son collier, on le lâchait et il avait été éduqué. On lui avait appris à revenir en seconde ligne à l'arrière pour apporter le message.
Et bien sûr, pour les messagers, il y a aussi les pigeons. On se souvient de l'histoire fameuse du pigeon matricule 787-15, le héros de Verdun, ce pigeon qui a porté le dernier message du commandant Reynal avant la capitulation du fort de Vaux en juin 1916. Encore aujourd'hui, à l'entrée du fort, une visite d'ailleurs que je conseille vivement, il y a une plaque qui rappelle cette histoire. Éric Baratet, est-ce qu'on a une idée du nombre d'animaux morts pendant la Première Guerre mondiale ?
On n'a que des estimations. Pour les chevaux, par exemple, pour les équins, côté français, il a dû être à peu près de 40%, c'est-à-dire autour de 800 000, 900 000 morts sur 1,8 million, 1,9 million équins enrôlés. Hein. C'est un chiffre énorme, évidemment, taux énorme, hein. Des pourcentages énormes.
Il y a eu aussi des dromadaires, je crois, qui ont été engagés dans les guerres coloniales, en Afrique notamment.
Oui, au moment de la Première Guerre mondiale aussi, hein, lorsque les Anglais essayent d'attaquer la Turquie par le Proche-Orient actuel, eh bien, ils ont des chevaux, mais ils ont aussi beaucoup de camélidés, parce que ces animaux-là sont moins sujets à la soif, supportent mieux la chaleur, etc. Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a tous les animaux de réconfort hein, qui sont dans les tranchées. Il y en a énormément, on les a oubliés, mais des chiens, des chats qui étaient venus dans les tranchées parce que là, il y avait de la nourriture, Les soldats en apportaient aussi de l'arrière. Il y avait des vaches ou des chèvres abandonnées en seconde ligne. Il y avait des ânes qu'on pouvait récupérer, etc. Des soldats apprivoisaient des oiseaux, des rats ou des plein de petits animaux. Et ces animaux servaient de réconfort psychologique. Hein. C'est très important pour les soldats de l'époque. Dans toutes les armées, on voit les photographies et les soldats en parlent beaucoup. Ces animaux permettent d'espérer. Hein. Ils font penser à la vie d'autrefois, la vie pacifique d'autrefois, la vie pacifique à l'arrière, hein, dans les familles. Et à la vie future, qui sera peut-être la vie de la paix si on arrive à survivre.
Merci Éric Baratet. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la lente marche vers la reconnaissance de l'animal au 19e et 20e siècle.